Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin sur RFI et RFI.fr.
Nathanaël Vitran.
7h30 à Paris, comme ici à Berlin. Bienvenue si vous nous rejoignez RFI en édition spéciale pour encore 1h30 jusqu'à 9h en direct depuis l'Institut français de Berlin à l'occasion des 30 ans de la chute du mur. Toujours avec moi en studio, Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin, Dieter Zenhonner à l'époque adjoint à la mairie de Berlin-Ouest. Hanna Berger, vous êtes porte-parole du mémorial du mur de Berlin. Mélanie Demello, analyste de médias, vous étiez lycéenne au moment de la chute du mur. Et Alexander Finger, traducteur, interprète et fils de dissidents. Est-allemand. Je me tourne vers vous justement, Alexander Finger, en tant que représentant de la jeune génération sur ce plateau. Quel regard porte la jeunesse allemande sur les événements de novembre 89? Que représente-t-il ce mur finalement quand on l'a si peu connu?
D'accord, là, par rapport à la génération entière, je pense que les avis sont très très divers. De toute façon, il y a aussi une grande différence entre les jeunes de l'Est, les jeunes de l'Ouest. Je pense que pour les jeunes de l'Ouest, le mur ou la chute du mur ne joue pas un tel grand rôle parce que c'est pas leur histoire à eux. La chute du mur, c'est plutôt peut-être l'histoire des Allemands de l'Est parce que c'était leur libéralisation. Si je compare par exemple ma propre biographie avec celle de mes parents qui avaient le même âge à l'époque que moi j'ai maintenant, alors à l'époque quand ils pouvaient quitter la RDA, je vois que moi j'ai beaucoup plus d'opportunités, aussi des possibilités pour me développer, d'étudier les langues, d'aller à l'étranger, tout ça, ce qui a été impensable pour mes parents. Alors, moi, je me sens vraiment privilégié, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui n'ont pas cette sensibilité pour le sujet parce que pour eux c'est quelque chose qui était qui est donné ou quelque chose qui est complètement naturel de vivre
sans restriction, on n'y pense même plus quoi.
C'est ça.
Pascal Thibault.
Vous l'avez dit, vers l'âge de 10 ans, vos parents ont déménagé dans le Brandebourg, aux portes de Berlin. Donc vous étiez dans l'école avec une majorité d'enfants de votre âge, mais originaires de l'Est. Est-ce qu'on parlait entre eux, vous parliez entre vous de ce qui s'était passé avant, des différences, quels étaient les thèmes qui revenaient dans la cour de
beaucoup,
récréation?
En fait, mais c'était pas vraiment une discussion sur un pied d'égalité. C'était plutôt en fait que moi, j'étais vraiment confronté avec beaucoup de préjugés. Aussi un certain rejet qui m'a vraiment choqué parce que depuis mon premier jour à l'école on m'a aussi demandé des questions les autres élèves pourquoi on est venu à l'Est, pourquoi on n'est pas resté à l'Ouest, mais toujours avec une attitude hostile d'une certaine manière. Alors
comme si ça avait été une trahison d'être parti.
Oui, en fait, mais faut mettre en considération que la plupart des élèves ne savaient pas en fait la biographie de mon père. Alors ils savaient pas que mes parents étaient des dissidents, mais ils nous ont vus comme des Allemands de l'Ouest, alors comme des ennemis. Et ça, c'était choquant parce que c'était que des enfants qui sont nés après la chute du mur, qui ne connaissaient pas la division de leur propre biographie, mais qui ont encore porté cette perspective qui était transmise par leurs parents et qui était assez négatif contre des Allemands de l'Ouest.
Hanna Berger, justement, en tant que porte-parole du mémorial du mur de Berlin, ce travail de mémoire, il est important pour les jeunes, pour les écoliers que vous recevez?
Oui, je pense. Et puis on voit que chez nous, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de groupes qui arrivent, des étudiants. Ça dépend toujours le contexte personnel,
familial
et individuel de chacun et chacune. Mais je pense ce qui est important aussi, c'est de réfléchir sur la manière en fait de s'approcher au thème, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui n'ont pas de souvenirs personnels, mais par exemple ce que j'ai mentionné où on a parlé des morts à Berlin, donc c'est par exemple, par ces histoires, par ce rapprochement peut-être plutôt émotionnel, ça, il y a directement un lien et ça aide à expliquer.
Quelles connaissances ils ont aujourd'hui, les jeunes, les écoliers, les enfants de ce mur de Berlin, de cette histoire de l'Allemagne coupée en deux ?
Ça aussi, c'est clair que ça dépend des groupes, mais il faut aussi voir qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont très très intéressés. Ils ont peut-être pas forcément beaucoup de connaissances eux-mêmes, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très très intéressés. C'est plutôt une question de comment. Expliquer les thèmes, par exemple aussi si on travaille ensemble avec des témoins, ça,
c'est, là c'est aussi il y a Alexandre, un lien. C'est ce que disait Alexander Finger tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeunes Allemands aujourd'hui prennent cette liberté qu'ils ont, avec laquelle ils ont grandi, de voyager, de faire des études, comme quelque chose de garanti, ils mettent même pas ça en cause, quoi.
Oui, c'est donné, voilà. Et là, je crois, effectivement, avec en contact direct avec des témoins, aussi avec des films, il y a d'autres possibilités. Mais là, ça fait quelque chose. Et souvent, on remarque aussi qu'il y a des groupes qui, au début, pensent que c'est un thème historique, c'est lointain quelque part. Mais après, ils se rendent compte que même dans leur famille, il y a peut-être une histoire parce que
c'est... Il y a des liens.
Oui, des liens, voilà.
Dont ils n'avaient pas forcément connaissance. Pascal Thibault et Dieter Zenhonner voulaient réagir l'un et l'autre.
Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes Allemands d'aujourd'hui à l'école sur cette période, soit Anna Berger, soit peut-être Alexander Finger, puisque votre période à l'école ne remonte pas si longtemps que ça.
Oui, en fait, moi, j'étais à l'école à Berlin-Ouest après, parce que mes parents ont décidé pour moi de quitter l'école à Brandebourg, parce que c'était vraiment tellement insupportable, franchement. Et à l'Ouest, je dois dire qu'on n'a pas vraiment traité le sujet. C'était peut-être pendant 2 ou 3 heures concernant la RDA. C'était vraiment un laps de temps très très court qui était consacré à cette époque, parce que, comme j'ai déjà dit avant, pour la plupart des Allemands de l'Ouest, la chute du mur, la division de l'Allemagne, tout ça, ça ne leur regarde pas tellement. C'est pas leur histoire.
Dieter Zenhonner, sur ce travail de mémoire.
J'aimerais bien revenir, si vous permettez, sur cette idée de la troisième voie, ouais, qui était très populaire à l'époque de la chute du mur, mais qui joue aujourd'hui toujours un rôle dans les discussions sous le titre de...
C'est-à-dire pas d'Allemagne coupée en deux, pas de réunification, quelque chose entre les deux.
Oui, en piquant les meilleurs fruits, pour ainsi dire, c'est l'occasion manquée. Parce que Helmut Kohl a pratiquement violé l'Allemagne de l'Est avec sa force économique. C'est la présentation de cette idée. Je crois que c'est une des grandes illusions. Déjà la possibilité d'une troisième voie entre deux systèmes. Parce qu'un système est un système, ça fonctionne. Parce que tous les éléments sont coordonnés. Et on ne peut pas se dire « Oh, nous piquons ceci de l'Ouest ».
Ce que vous nous expliquez, c'est que certains à l'Est et peut-être à l'Ouest imagineraient aujourd'hui une troisième voie qui pour vous n'est pas possible,
pas de cette façon-là.
N'aurait pas été possible.
Les systèmes vont évoluer et personne ne sait exactement dans quel sens. Mais pas dans ce sens-là qu'on pique les raisins.
Est-ce que du coup ce travail de mort expliquait pourquoi la réunification a eu lieu, l'histoire du mur, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour cette jeune génération, on vient de le redire longuement, qui n'a même pas conscience que le monde qu'ils connaissent aujourd'hui n'est pas si vieux et n'est pas forcément immuable.
Historiquement parlé, même les 30 ans que l'RDA a duré, c'est éphémère. Et l'Allemagne de l'Ouest s'est toujours sentie l'Allemagne. Et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui n'ont pas vraiment cette impression d'avoir vécu, ou que leurs parents aient vécu une rupture. C'est une normalisation. Et la normalité qu'il y avait avant est incompréhensible pour eux.
Mélanie Mello, vous ressentez cette fissure entre des Allemands qui considèrent à l'Ouest que finalement tout est normal et ceux qui ont grandi à l'Est, qui ont vécu en RDA, en ex-RDA, qui pour eux ont bien conscience, eux, que le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui n'est pas le même.
Oui, évidemment, pour la génération qui a grandi avec le mur, le souvenir reste très actuel à chaque fois qu'on passe à côté du mémorial du mur.
Mais vous ressentez cette différence avec les Allemands qui, eux, ne l'ont pas connu, les Allemands de l'Ouest ?
Oui, bien sûr, pour les Allemands de l'Ouest, c'est beaucoup moins important. Et en plus, c'était pour eux, en quelque sorte, une charge. Hein. La réunification, on n'a pas demandé aux Allemands de l'Ouest s'ils voulaient faire cette réunification et financer par leurs impôts le poids économique. Pour les Allemands de l'Est qui n'ont pas tellement bénéficié, il y en a qui n'étaient pas les gagnants. Il y a perdants dans l'histoire et qui sont aujourd'hui très frustrés. Pour les Allemands de l'Ouest, ça paraît comme une offense de ne pas avoir de reconnaissance pour cet effort économique. Donc il y a des Allemands de l'Est et de l'Ouest qui ont
donc le mur a disparu, regards. Mais les fractures quelque part sont toujours là, c'est ce que vous nous expliquez.
Exactement, oui.
Pascal Thibault.
On a évoqué la troisième voie entre socialisme et capitalisme, une troisième voie que défendait un certain nombre d'opposants à la RDA. Vous aviez des amis dans cette mouvance, Mélanie de Mello. On sait que ce mouvement a été laminé lors des premières élections démocratiques en mars 90 avec 2 à 3% des voix. Pourquoi ceux qui ont contribué à ébranler le régime est-allemand n'ont pas pu engranger les fruits de leur combat ?
Parce que les motivations étaient différentes. Les opposants, les dissidents, comme le père de Alex Anna ou aussi des amis à moi ou des parents d'amis, avaient des objectifs politiques, voulaient s'engager pour la liberté de la presse, le droit de vote et la liberté de voyager. Alors que le grand mouvement qui a suivi ensuite, à partir du 9 octobre, qui est venu manifester dans la rue, pour eux, je pense la motivation principale était économique et ils étaient donc la majorité des Allemands de l'Est étaient intéressés par un pouvoir d'achat et un pouvoir de consommation plus que par le droit de vote et la liberté d'expression.
Alors on va élargir à présent, voir au-delà des frontières de l'Allemagne. La chute du mur, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi le fruit d'un mouvement de contestation au sein de l'Union soviétique. Il s'est exprimé, ce mouvement de contestation, dans de nombreux pays du bloc. À Radio France Internationale, il y a l'antenne en français que vous écoutez, mais il y a eu et il y a encore de nombreuses rédactions en langues étrangères où travaillent des journalistes qui ont grandi sous l'URSS, qui ont vécu ces événements. Je vous propose d'écouter deux témoignages. D'abord celui de Vassilie Damian, il est journaliste au sein de la rédaction en roumain de RFI, il avait 23 ans à l'époque.
À l'époque, j'étais étudiant en mathématiques. Il n'y avait pas du tout des émissions de télévision ou très peu, et surtout de la propagande communiste. On écoutait des radios étrangères. On écoutait ça en cachette, donc on a su évidemment que le mur de Berlin était tombé. On ne croyait pas que ça va nous arriver à nous aussi. En fait, on avait une image assez pessimiste de notre avenir. On croyait que c'est un régime qui va tenir jusqu'à la fin de nos jours. Et puis, le mouvement s'est répandu dans toute la Roumanie et a atteint donc Bucarest le 20 et 21 décembre 89. Et évidemment, on est sorti dans la rue, on est allé protester, on s'est fait tirer dessus. On sentait que c'était historique.
Voilà, c'était historique. Et puis le témoignage d'Artan Kotra, il est journaliste albanais. À l'époque, il était étudiant au sud de l'Albanie.
C'était vraiment une sorte d'espoir que nous, on voulait embrasser quand on voyait les jeunes Allemands qui se forçaient, se mobilisaient à faire tomber ce mur. La symbolique était là. Nous aussi, on devait faire quelque chose pour faire tomber un régime qui n'avait pas la forme d'un mur. Mais ça avait la forme d'un rideau de fer, la barrière des idées, la barrière de l'avenir.
La barrière de l'avenir, voilà. Ces témoignages réalisés en collaboration avec France 24, TV5 Monde, la Deutsche Welle, à retrouver en intégralité, en vidéo, sur nos réseaux sociaux. Je m'adresse un peu à vous tous, là, l'espoir qui est né en Allemagne, à Berlin, ce 9 novembre 1989, il s'est répandu dans tout le bloc soviétique, Dieter Zellhoner.
D'un côté, oui. De l'autre côté, comme vous l'avez mentionné, les événements s'étaient préparés en Pologne, en Hongrie Et je me souviens, mes camarades de tennis m'ont rappelé, mais au mai 89, tu as déjà dit, cette ouverture partielle de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, c'est le début de la fin du mur. Donc il faut voir ça dans une continuité de l'autre côté, en revenant sur cette ainsi dite occasion manquée. Au contraire, Helmut Kohl avait peut-être raison de tellement se presser avec la réunification, parce que c'était une ouverture de fenêtre historique. Une fois Gorbatchev renversé par un putsch de la généralité soviétique, par exemple, et la réunification ne se serait plus passée. Donc il fallait se dépêcher.
C'était l'urgence.
Mélanie Mello, le grand espoir des Est-Allemands à cette époque-là, c'était Gorbatchev avec les réformes qu'il avait fait à l'Est. Qu'est-ce que ça signifiait? Et puis également aussi ce qui se passe en Pologne, au printemps, en Hongrie, le rideau de fer qui est ouvert. Est-ce que tout ça, ça nourrissait aussi l'espoir chez vous ou de vos amis? Ou au contraire, est-ce qu'on avait peur d'une solution à la chinoise après ce qui s'était passé à Tiananmen en juin?
Alors pour nous, pour les jeunes de RDA à l'époque, Gorbatchev c'était notre héros, hein, quand on scandait Gorbi, quand il est venu à Berlin, c'était un grand espoir, et il y avait cette situation absurde que en 89, en Union soviétique, il y avait plus de liberté d'opinion qu'en RDA. On a même interdit le magazine soviétique pour les jeunes. En Hongrie, ça s'est ouvert, en Tchéquie aussi, mais la RDA, avant la chute du mur, a refermé les frontières. Hein. Ils ont bloqué à un moment même la frontière tchèque. Donc, pendant ces dernières semaines, avant la chute du mur, on se sentait vraiment comme en prison. Et y avait beaucoup de gens qui essayaient encore de s'échapper avant que ce soit complètement fermé. Et heureusement, Gorbatchev a dit à Honecker, non, tu vas te débrouiller toute seule avec ta situation politique, et il n'y a pas eu de char russe comme avant, et donc c'était une révolution paisible.
Anna Berger, on l'évoquait, les prémices de ces, les premières fissures dans le rideau de fer, elles viennent de Pologne, de Hongrie. Malgré tout, ce que nous racontent Artan Kotra, Vassilie Damian en Albanie, en Roumanie, c'est que le symbole de cette chute du mur de Berlin a eu un impact considérable dans les autres pays du bloc de l'Est. Pourquoi ?
Enfin, ça, oui, parce que c'était le symbole, et surtout à Berlin et chez nous au mémorial du mur, on voit ça très bien, que même c'était une rue, la Bernauer Straße, qui a été divisée par le mur. Donc c'est clair que ce symbole, c'était tellement direct à Berlin, mais aussi en Allemagne, que c'était vraiment la confrontation qui finalement s'est ouverte. Donc je pense c'est pour ça que c'était symbolique aussi pour les autres pays. Mais il faut voir que le pouvoir et la force de l'opposition, ça venait de ces pays-là. C'était pas que c'était venu de l'extérieur, mais c'était ces pays-là qui avaient les mouvements eux-mêmes.
Bien sûr, mais ils ont été inspirés malgré tout par... C'est à Berlin, c'est devant le mur, la porte de Brandebourg, que Kennedy était venu des années auparavant dire « Tous les hommes libres du monde sont berlinois, et en tant qu'homme libre, je suis berlinois, ich bin ein Berliner » en allemand.
Je pense que tout ce qui s'est passé à Berlin, c'était comme un, en allemand on dit un Brennglas de l'histoire, hein. C'était vraiment la concentration de...
Tout s'est fait à ce moment-là. Y a un aspect que je voulais évoquer aussi avec vous tous, c'est la manière dont les Allemands de l'Ouest et peut-être les pays du bloc occidental en général ont perçu la chute du mur. En tout cas, il y a effectivement l'Union soviétique est en train de s'effondrer. Il y a une forme d'acceptation. Et puis, écoutez ce que nous disait le 10 novembre 1989 le franco-allemand Daniel Cohn-Bendit à la radio.
Il va y avoir encore beaucoup de gens qui vont partir, quitte à revenir dans un ou deux mois. Où est-ce qu'on les Allemands de l'Ouest vont les mettre? Je veux dire, il n'y a pas de place, ils vont ouvrir des casernes. Ils sont complètement saturés de réfugiés, ils ne savent plus comment les accueillir. C'est un problème qui peut, parce qu'il y a des élections en Allemagne de l'Ouest, la haine de l'étranger passe par le refus des réfugiés aussi de l'Est. et ça donne des voix à l'extrême droite.
Ça, c'est une question, une des premières questions qu'on vous avait aussi posée à l'époque, le 10 novembre 89. C'est très vite, après, êtes-vous content, c'est la joie, l'euphorie, et très vite, mais quand même, les Allemands de l'Ouest, ces réfugiés, ça va pas leur faire peur, on va venir prendre leur travail. Voilà, je reformule. Editeurs et honneurs, on vous a posé cette question le lendemain de la chute du mur.
Oui, à Christine Ockren, j'ai dit, mais que voulez-vous, il y a des poujadistes partout. Et les Français ont connu ce phénomène au moment du retour des Français de l'Algérie.
Les pieds noirs, ouais.
Ils n'étaient pas bien accueillis non plus.
Ça veut dire qu'il y avait une peur que tout d'un coup, ça allait faire un appel d'air que ces Allemands de l'Est, d'ex-RDA, et peut-être au-delà des frontières de l'Allemagne de l'Est, de la RDA, les Hongrois, les Roumains, les Polonais allaient tous venir tout d'un coup, tous ensemble en Allemagne de l'Ouest. Il y avait ce fantasme
À certains moments, oui, comme il y a ce fantasme aujourd'hui à l'Angleterre, le Brexit est le résultat de ça.
Mélanie de Mello, un petit mot sur ce sujet. Est-ce que vous aviez, est-ce que c'était l'atmosphère de l'époque?
Je pense que c'était pas un fantasme. Hein. C'est il y avait vraiment ce risque, enfin, que des milliers d'Allemands de l'Est allaient venir s'installer à l'Ouest ou piquer le travail. Évidemment, moi, j'ai des amis qui dès février 90 sont venus travailler à Berlin-Ouest, vendre des fleurs pour 5 Deutsche Mark de l'heure, hein, 2,50 €. Donc c'était une réalité, et je pense que c'est une des une des raisons pour lesquelles le gouvernement a fait passer cette réunification très, très rapidement.
Anna Berger et Pascal Thibault, vous vouliez réagir. Anna Berger.
Oui, il y avait ce refus, effectivement. Et puis, je pense que ce qui est aussi important, c'est de voir que c'était aussi d'autres groupes qui étaient concernés par ça. Par exemple, si on regarde un peu plus près à la communauté turque de Berlin-Ouest, si on parle avec eux, ils disent souvent, oui, pour nous, c'était pas un jour de seulement joie, le 9 novembre, parce que après, nous, on se sentait encore plus à l'écart. Et pour nous, aujourd'hui, 30 ans plus tard, je pense que c'est très très important de parler aussi avec ces communautés, ces groupes-là.
C'est-à-dire tous les non-allemands qui vivaient en ex-RDA, en RDA à l'époque.
Oui, qui n'ont
pas. Ils étaient nombreux aussi. Il y avait une invitation, les gouvernements de RDA invitaient beaucoup d'étudiants. Il y avait beaucoup d'immigration en dehors de l'Allemagne.
Vous voulez dire après?
Il y avait une présence il y avait une présence déjà en 1989 en ex-RDA, donc en RDA à l'époque, de beaucoup d'étrangers.
Il y avait des étrangers, mais c'était d'autres étrangers qu'après. Et là, je voulais parler de Berlin Ouest, où par exemple.
À l'Ouest, il y avait
oui, oui, voilà, et maintenant, je pense qu'on n'a pas assez parlé, par exemple, avec ces groupes-là, parce qu'on voit qu'il y a plus de facettes, quoi. Il y a pas seulement un souvenir du 9 novembre, il y a une plus grande variété, et à mon avis, c'est très, très important de voir ces, peut-être ces ambivalences de la mémoire, parce
c'est-à-dire
que les laisser, d'être ouvert à
c'est-à-dire
à
que
ça.
Les communautés turques, pour prendre cet exemple qui était importante dans Berlin-Ouest, en Allemagne de l'Ouest, se sont sentis encore plus marginalisés après la réunification. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il y avait d'autres arrivées qui étaient peut-être vues comme plus légitimes.
Voilà. Ils étaient plus allemands, dans ce sens-là. Ils se sentaient plus allemands, oui.
Pascal Thibault.
Dieter Zenoner, vous étiez responsable à la mairie de Berlin-Ouest. Ces problèmes, dans quelle mesure vous les avez perçus au niveau de la ville, en tout cas de la partie ouest de la ville, à la fois les problèmes d'hébergement dont parle Daniel Cohn-Bendit, mais aussi le fait que aussi des Allemands de l'Est, comme le disait Mélanie de Mello, arrivent rapidement sur le marché de l'emploi et sont peut-être prêts à à travailler à des conditions inférieures à celles qui valaient à Berlin-Ouest.
Tout cela posait certains problèmes, mais il faut voir d'abord que jusqu'à la chute du mur, l'existence de Berlin-Ouest libre avait toujours un élément de provisoire. Combien de temps les Occidentaux allaient-ils défendre ce poste d'extension vers l'Est, comme par exemple à l'époque de Trump, du président Trump,
Donald Trump, ouais.
On ne se serait plus senti sûr à Berlin-Ouest, comme il a trahi la Syrie, pourquoi il ne trahirait pas Berlin-Ouest, par exemple. Ah. Il y avait 10 000 soldats occidentaux à Berlin, et autour, il y avait 400 000 soldats soviétiques et 200 000 est-allemands.
Les questions de rivalité sur le marché du travail ou les questions pratiques d'hébergement. Déjà, dans les mois qui précèdent le 9 novembre, des dizaines de milliers d'Est-Allemands passent à l'Ouest. Ils arrivent aussi en grande partie en Allemagne de l'Ouest, mais ils arrivent aussi à Berlin-Ouest.
Le problème s'est moins posé parce que même les Berlinois de l'Est qui se présentaient au marché du travail continuer à habiter Berlin-Est, donc le problème d'hébergement n'était pas crucial à l'époque. Sur le marché de travail, on avait plutôt un problème économique que les investisseurs ne revenaient pas à Berlin dans la mesure qu'on avait prévu et espéré.
Est-ce que, malgré tout, on a parlé tout à l'heure on parle encore de ce fantasme ou cette réalité d'un afflux de réfugiés, de migrants venus d'Allemagne de l'Est, est-ce qu'il a vraiment eu lieu? Est-ce que, parce que ce qui est arrivé à votre père Alexander Finger, il y avait déjà des transferts de population massifs entre l'Est et l'Ouest, c'était pas nouveau. Est-ce que ça a provoqué ce que Daniel Cohn-Bendit disait craindre, un afflux massif de réfugiés, alors venus d'Allemagne de l'Est, mais peut-être aussi d'autres pays du bloc soviétique? Anna Berger, peut-être, ou Auditeurs en Honneur?
Pas dans une mesure extensive qui aurait causé des grands problèmes. Puisqu'on avait plutôt à l'époque un manque de main d'œuvre, ce qui explique la présence turque, etc.
Mélanie de Mello.
Alors, moi, je pense que si, il y aurait eu une vague immense, parce que je me souviens que au printemps 90, donc avant les élections, les premières élections libres, je me souviens en Thuringe, en province, les gens manifestaient près de la frontière allemande, donc innerdeutsche Grenze, entre les deux Allemagnes, et ils ont fait une manifestation, ils ont pris des valises avec des pancartes, ils ont traversé la frontière en disant si le Deutschmark ne vient pas vers nous, nous allons vers le Deutschmark. Et c'était une réalité, c'était une menace, mais qui était réelle pour la majorité des Allemands de l'Est. C'était important d'avoir une amélioration de leur situation économique et un pouvoir d'achat, et il serait allé le chercher s'il n'était pas venu.
Est-ce que du coup le mur s'est déplacé plus à l'est entre l'Allemagne et...
Exactement, oui.
Et les
je
pays
trouve
voisins.
Que, parce que tout d'un coup, avec la réunification, les Polonais, les anciens amis socialistes, se sont retrouvés à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc, je trouve que le mur s'est déplacé. Maintenant, il s'est déplacé jusqu'à la frontière biélorusse. Mais c'était bien sûr un déplacement.
Voilà, c'est ainsi qu'on va conclure cette première heure. Restez avec nous, on revient dans 10 minutes, juste après le journal, avec de nouveaux invités, un nouveau plateau pour aborder entre autres l'onde de choc de la chute du mur jusqu'en Afrique. Et puis on s'intéressera évidemment à l'Allemagne et à l'Europe moderne 30 ans plus tard. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pendant cette première partie. Dieter Zenhonner, ex-adjoint à la mairie de Berlin-Ouest. Anna Berger, porte-parole du mémorial du mur de Berlin. Mélanie de Mello, vous étiez lycéenne à l'époque. Merci aussi Alexander Finger d'avoir partagé avec nous l'histoire de votre famille, de votre père. Tous nos contenus à retrouver sur RFI.fr /mur-berlin, notre site internet. De nombreuses choses à voir aussi sur les réseaux sociaux. Dans un instant, dans 30 secondes, le journal de Grégory Lesca. On se retrouve juste après.